Ma vache est allée faire un tour sur son champ.
Elle avait rien à y foutre déjà pour commencer. Et ça va bien qu'elle est morte toute seule. Sinon, j'ai foutu un coup de fourche, moi, au bazar.
Et puis quand elle est revenue, elle avait chopé toutes les maladies qui existent d'un seul coup.
Ouais, parce que quand elle est arrivée, elle était en pleine forme. Hein, elle avait déjà toute la moitié arrière qui était morte depuis 15 jours.
Il me rembourse la bête ou ça serait un bain de sang. Je génocide.
Je lui rembourse mes genoux. Et s'il a filé la vérole à mes bêtes, je suis un marteau, moi. Je crame tout, moi. Ma ferme, la sienne, celle des autres, le château, je vais flamber la moitié de la Bretagne.
Libre Radio, la radio qui allume le feu.
Alors, nous sommes vendredi 21 avril et nous sommes à l'Almacène. L'Almacène, c'est une petite salle assez tranquille qui est derrière la gare Cornavin à Genève, dans le quartier des Grottes, qui est un quartier singulier. Qui est un petit peu un quartier spécial, je veux dire. Et alors, on est ici au calme, puisque ici siège la Bibliothèque du Peuple. Ça me permet de faire un petit coup de pub pour nos trucs, nos activités. Mais en face, il va y avoir du bruit ce soir, puisqu'il y a deux concerts, et notamment vous, Docté, dont deux représentants sont en face de moi. Dan, bonjour à toi.
Salut.
Et Jules, salut.
Salut.
Vous êtes donc deux sur une formation qui compte combien de zikos ?
Deux.
Ah, vous êtes l'ensemble du groupe, en fait. Ouais. Ah, pardon. Ah, mais je ne sais pas pourquoi, je pensais que vous étiez quatre.
En fait, on a deux mecs qui traînent avec nous, mais du coup, c'est le Texan et du coup le conducteur, en fait, Rodi.
Vous avez deux Rodis, un Texan qui vient avec vous pour votre tournée, génial.
C'est ça, et qui est aussi bricoleur, du coup, ça peut vraiment aider.
Excellent. Ça veut dire que vous êtes en tournée, mm-hmm. parce que vous êtes originaire de
Aix-en-Provence.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on y fait à Aix-en-Provence comme musique, en tout cas pour Docté ? S'il fallait, ce qu'on ne veut pas faire, coller une étiquette, c'est pour les auditrices, auditeurs.
On va dire que chez nous, à la base, c'est plutôt un délire... dub, reggae, qui est plutôt dans la culture là-bas. Mais nous, Dany est anglais. Et du coup, on a une culture qui est vraiment autre. Donc, ça fait un moment qu'on joue ensemble. Donc, c'est vraiment grunge alternatif, des fois garage avec un peu de stoner. Donc, de la musique plutôt énervée, quoi.
Ok, ouais, j'ai l'expression, la musique énervée. Qui fait quoi au sein du groupe ?
Moi, je fais de la guitare chant.
Okay. Et du coup, moi, la batterie, ouais.
Et toi, la batterie, d'accord. Et puis alors, justement, comment est-ce que vous faites pour les textes et les mélodies ? Parce qu'en duo, ça va être quand même encore différent qu'une formation plus grande.
Ouais.
En duo, c'est voilà.
Au niveau des morceaux, en fait, tout commence avec la guitare. Ensuite, dès que j'ai des riffs ou trucs comme ça, je les amène en répète avec Jules. On va bosser juste une instru. Après, moi, je prends cet enregistrement qu'on enregistre sur un téléphone ou quoi, chez moi, et puis je mets la voix par-dessus, derrière.
On va dire que la construction du morceau peut être assez rapide au niveau de l'instrumental. Et on va dire d'un premier jet, quoi. Et puis ensuite, ça peut prendre des mois avant qu'on se dise, tiens, on va la jouer en concert. Ah ouais. Ou on en est content, ou on la joue en concert, et puis on arrête de la jouer parce qu'on n'est pas forcément content de la structure ou de l'assemblage des choses. Et du coup, on la remet en question, on la retravaille, on arrête de la jouer en live.
Le truc à deux, c'est que c'est simple de monter un morceau, voilà. Mais c'est simple de le rendre efficace.
D'accord.
Du coup, c'est ça qu'on met. On met pas beaucoup de temps à monter une instru à deux. C'est qu'après, pour en faire un vrai morceau abouti, c'est une autre histoire.
C'est ça.
Et ça, c'est une patte de Docté, d'être ready-made, d'être prêt, beat,
ouais,
et de tabasser.
Ouais. Je pense beaucoup de duos, je pense qu'ils doivent fonctionner comme ça au final, parce que quand t'es vraiment que deux musiciens, c'est que
c'est
assez restreint, en fait.
On est restreint, mais à la fois, il faut trouver du coup la contrepartie d'arriver et de dire voilà. On est efficace, mais original, tu vois. Tu verras ce soir pendant le concert, c'est que le boulot, il est dans le fait d'être toujours autant efficace, c'est-à-dire avoir la structure un peu, on va dire, pop, entre guillemets, qui fait que du coup, c'est assez clair et direct, mais avoir un côté quand même original dans le son, dans la façon de faire. Par exemple, scéniquement, on est vachement énergique, tu vois. Ce qui fait que du coup, ça reste un truc pour le public, tu vois, qu'un duo de garage, comme par exemple, je prends l'exemple des White Stripes, tu vois, qui ont beaucoup fait la route et qui ont beaucoup d'albums. Moi personnellement, qui écoutais un peu, je trouve que vraiment, ça tourne un peu en rond, tu vois. Parce que le studio c'est quelque chose, mais après le live, c'est une autre affaire. Et du coup, on essaye de garder cet esprit live.
En fait, on a un groupe de live.
Voilà.
Si on aime bien, on voudrait vraiment exploiter plus le studio. Pour l'instant, on est vraiment un groupe de live et on veut que le live sonne. Comme ça sonne en studio pour l'instant.
Ouais, justement, j'allais te poser la question, le manque d'inspiration vous gâte-t-il dans le sens où dans un duo, des fois, est-ce que justement ça finit par faire une discussion, un dialogue, et finalement certaines choses peuvent s'épuiser ?
Pour l'instant, non.
Okay. Et puis vous faites attention à maintenir...
C'est vraiment l'effort de rester original et de trouver des trucs intéressants.
Ouais.
Mais on en a déjà parlé, que ça va sûrement arriver un jour, il nous faudra un bassiste, un truc comme ça.
Voilà, on pense beaucoup à ça, c'est un deuxième guitariste ou un bassiste. Ou après, voilà, il y a ce côté-là où on fait là, pour ce projet-là, c'est très 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 grunge. Donc voilà, quoi, c'est loud, ça crie, il y a de la fuzz, quoi. Mm-hmm. Et à côté de ça, on écoute beaucoup de musique pop également, des trucs modernes, et vers lesquels qui nous attirent aussi. Donc on va sûrement aussi créer d'autres projets à côté, beaucoup plus tranquilles.
Ok. Pourquoi Duct Tape, le nom ? Enfin, c'est une question un peu triviale, je suis obligé.
Mais parce qu'on devait choisir un nom un jour, on devait changer de nom, et on n'avait pas trop d'idées. On était, je crois, chez Jules, sa chambre, où on était. Et il y avait du gaffeur, du gros scotch.
Ouais, Charleston,
ouais. Du coup, du duct tape, en fait, les États-Unis, en fait, on appelle ça duct tape.
Ah, je savais pas. Ah, en fait, c'est gaffeur.
Ça s'écrit pas pareil, mais on l'écrit comme ça.
Puis du coup, il y a le canard qui revient du coup sous nos logos, sous nos t-shirts, tu vois.
Ouais, donc le tape n'a rien à voir avec la cassette antédiluvienne.
Non, non.
Il n'y a pas de côté vintage.
Il y a ce côté-là qui peut revenir aussi, parce que tu vois, le duct tape, ça sonne vraiment tape, quoi. Mais pas forcément en premier, quoi.
Ok. Là, vous êtes de Nantes, donc je suis obligé de vous poser la question. Quel est l'état de la scène énervée, musicale, à Aix ?
Il y a beaucoup de groupes. Il y a beaucoup de groupes, mais le problème, c'est que le public ne se bouge pas forcément. Et que, par exemple, sur Aix-en-Provence, moi, j'organise des concerts sur Aix. Du coup, et c'est extrêmement compliqué de travailler avec les lieux, en fait, parce que les lieux sont pas. On n'a pas beaucoup de milieux associatifs comme le lieu où on est aujourd'hui, où c'est très. On va dire un peuple, les gens sont là pour s'entraider, tu vois. Genre chez nous, c'est le profit qui gagne et on a énormément de mal à arriver à avoir à négocier un bon contrat avec une bonne salle ou un bon bar pour faire des bons concerts et puis après mettre des thunes dans la com, dans le machin et tout pour faire des beaux événements. Voilà. Donc il y a énormément de salles de concert, par exemple sur Marseille qui est à 50 bornes de Aix. Qui est une ville qui bouge énormément et qui est quand même vachement populaire, mais le problème c'est que les gens ne se bougent pas au concert forcément. Et voilà, c'est la première fois qu'on tourne, c'est la deuxième fois sur deux mois quoi, qu'on tourne. Donc on a fait une fois 10 jours, une fois 3 semaines, mais on a fait deux fois la France, même trois fois on va dire. Et dans le nord de la France, ce qui se passe, ce qu'on voit, c'est que les gens se motivent pour la musique et ils ont une écoute différente sur des musiques énervées, enfin, du coup, grunge, rock alternatif, tout ça. C'est-à-dire que chez nous, les gens, comme je disais tout à l'heure, il y a plus la. On va dire, clairement, c'est un peu la culture du bédo, tu vois, passe ta gueule tranquille sur la plage, quoi. Et ici, du coup, ils sont plus à s'imprégner des choses. Et en tout cas, on a remarqué ça, nous, sudistes, quoi, que les gens ont beaucoup moins de problèmes à aller voir un concert et à boire des coups et à rester devant le son. Alors que chez nous, ça reste plutôt chill, finalement, quoi.
Ouais. Ok. Dan, tu. Agrès,
c'est tout à fait ça. Dans les villes comme Rennes, Strasbourg, tout ça, on a pris notre claque, quoi, avoir un public qui se bougeait comme ça. Quoi.
Et qui était dans la musique, quoi. Ouais. Qui était dans la musique.
Pas juste à regarder, quoi. Et écouter, mais à bouger, et kiffer. Même si peut-être s'ils n'aimaient pas trop, ils étaient vraiment dedans, quoi. C'était très cool à voir.
Physiquement, quoi.
Ce sentiment-là que vous ressentez, ce ressenti que vous avez là-bas, pensez-vous qu'il est en lien des événements un peu terribles qui se passe en France, un peu partout. Encore hier, il y a eu cette histoire de policiers assassinés. Moi, il y a un état d'exception, un état d'urgence qui est en place depuis un moment maintenant. Mmh. Est-ce que ça, finalement, même si les personnes ne veulent pas être influencées par ça, est-ce qu'il y a une contagion peut-être qui se produit ?
Moi, je pense pas. Je pense que sur des grandes villes comme Paris, par exemple, moi, j'ai des copains qui étaient au Bataclan, tu vois. On a des connaissances qui ont vécu le truc directement, tu vois. Ils mettent 6 mois à s'en remettre, tu vois, que c'est certain. Mais après, quand ils en sortent, je veux dire, au contraire, ils ont beaucoup plus envie de montrer les choses. Et généralement, les gens qui viennent voir des concerts, les gens qui se bougent le cul pour la musique émergente et tout ça, c'est des gens qui crachent, tu vois, sur Daesh, le terrorisme, qui disent, c'est en vivant qu'on leur montre qu'ils ont tort et qu'on leur montre que ça nous atteint, c'est certain, parce que c'est de la violence et que c'est direct, mais ça ne nous atteint pas non plus pour dire, voilà, c'est de la violence, c'est direct, ça nous touche, ça nous fait des fois peur. Des fois, ça nous angoisse, mais voilà, la musique, c'est la musique, et tant qu'il y aura des gens pour la faire vivre, et pour la mater, et l'écouter, ça marchera, quoi.
Ok, et puis, mais vous sentez que, vous-même, dans votre répertoire, est-ce que du coup, d'une certaine manière, par capillarité, il y a une influence de ce qui se passe en France par rapport à ça ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a parlé de musique énervée, est-ce que pour vous, c'est synonyme de musique engagée également, Un peu, beaucoup, pas du tout.
Le truc, c'est que je pense que dans les instrus, peut-être, oui. Quand on fait quelque chose, parce qu'après, quand je grandis, on écoute dans des groupes comme Rage Against the Machine, donc ouais. très grosse influence. Mm-hmm. Donc ouais, peut-être du coup quand je commence un morceau, après au niveau des paroles, c'est moins, ça reste très ambigu et assez neutre, parce que je préfère rester comme ça, mais ça c'est juste comme ça que je fais.
Oui.
Mais sinon ouais, au niveau de la musique, il y a vraiment un truc engagé, énervé quelque part, pour une raison, qui est peut-être un truc comme ça quoi.
Puis ça peut être, ouais, suivant les soirs, ça va être un sentiment qui va changer, c'est-à-dire que des fois, comme c'est une musique qui demande une mise en situation de temps en temps, tu vois, sur certains morceaux, bah, y a des soirs où ça va pas forcément être la même idée qui va être, prise en compte pour avoir cette énergie-là, tu vois. Bah, des fois, il peut avoir un regard un peu haineux, tu vois. Je pense à, enfin, moi, je sais pas comment tu vis toi, mais moi, en tout cas, à la batterie, des fois, j'ai besoin de cette attention un peu haineuse, un peu rentre dedans, quoi, pour me mettre dans la musique et pour être là physiquement. Et des fois, je peux avoir des pensées un peu spéciales qui vont faire que, et ça rentre du coup dans l'engagement. C'est pas forcément visuel, enfin individuel, je veux dire, c'est pas forcément inné. Les gens le savent pas forcément, quoi. Mais en tout cas, nous, on le sait, quoi.
Ouais. Dans les paroles que vous émettez, il y a quand même certains thèmes sur lesquels vous rebondissez régulièrement, ou c'est vraiment un petit peu, voilà, il peut y avoir une fois une romance, un truc un peu d'amour, ou une fois.
Ça peut être vraiment, il y a plein de trucs.
C'est un très large spectre.
Sauf que je fais vraiment un effort quand je fais mes paroles de rester ambigu pour avoir plusieurs sens.
Ah ouais.
Pour que les gens. Excellent. Voilà, déjà parce que ça, je suis plus à l'aise en. J'aime pas trop parler directement de trucs à moi. J'aime bien que les gens peuvent écouter ce que je dis et se dire, ah, peut-être qu'il parle de ça ou il parle de ça. Et après, c'est à la personne de choisir et ils pourront jamais vraiment savoir de ce que je dis. Et ça, je suis plus à l'aise comme ça en. Pour chanter, pour raconter des trucs. Quoi.
Ok. Habituellement, est-ce que vous êtes aperçu qu'il y a un certain type de public qui vient plus qu'un autre vous voir, et si oui, lequel? Ou c'est vraiment une musique tous azimuts, pour tout le monde. Enfin, j'entends bien que tout le monde est le bienvenu, mais est-ce que vous avez remarqué peut-être que, ouais, bah, finalement, on a un public qui est quand même. Quand il vient, il pogote, ça saute dans tous les sens, ou non, pas tout le temps.
Ça dépend des villes.
Ouais. Mais oh, je veux dire, là, on va reparler de la tournée juste après, mais disons, à Aix, quand vous jouez, vous avez certainement fait des bars du coin, j'imagine, vous avez écumé un peu là-bas. Comment c'est? Qui vient voir Docté?
Bah, Aix, c'est un peu les potes, les trucs comme ça. Après, il n'y a pas beaucoup, quand même une énorme scène pour cette musique.
Ouais, c'est ça. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que, en fait, on a un groupe assez spécial. C'est-à-dire qu'on passe, quand il y a une soirée un peu pop-rock, tu vois, nous, on va être et qu'on est programmé sur cette soirée, on va être le groupe le plus énervé. Mais par contre, on a beaucoup été programmé sur des trucs, sur une scène stoner et doom et très trashy, quoi. Et là, on passe pour les petits gentils, en fait, tu vois. Donc, il y a ce côté-là aussi. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait des scènes comme à Strasbourg, on a fait le Diamant d'Or, tu vois. Le Diamant d'Or, c'est un ancien local nazi, c'est très rigolo. Et les mecs, maintenant, du coup, c'est des antifas qui s'éclatent et qui sont tous, pour la plupart, vegan et tout. Donc, qui font du gros hardcore, même du post-metal. Vraiment, c'est dingue. Et là, pour le coup, tu vois, la scène qui se représente, enfin, les gens qui sont dans le public, c'est y a de tout. C'est-à-dire que tu vas voir, du coup, du mec en cuir en noir, tu vois, avec les grosses docks, qui a une certaine haine contre la société, mais qui va être physiquement dedans, tu vois, très rapidement. Comme tu peux avoir le monsieur tout le monde, tu vois, qui se voit pas forcément qu'il écoute du rock et qu'il écoute du grunge, mais pour le coup, ça lui tient à cœur d'être là et il s'éclate. Donc, ouais, je pense qu'on a un peu partout, quoi. Bon, forcément, il n'y a pas forcément. Bah, par exemple, tu vois, pour avoir joué avec vous, quoi, à Marseille ou Aix, on tombe souvent sur, du coup, des mecs un peu peace and love, tu vois. Un peu en mode dreadlocks, Jamaïque et tout, tu vois. Et ces mecs-là, ils vont être surpris de la performance scénique. Et du coup, vont nous dire « Waouh, les gars, c'est trop cool !» Parce que physiquement, ça en jette, mais la musique ne les touche pas forcément. Mais,
c'est l'énergie
qui va leur faire dire « Voilà, ok, ouais. Il se passe quelque chose, quoi. »
Du coup, il y a des influences pour vous indiquer des influences d'autres, de pairs, de groupes comme ça mythique un peu pour vous qui serait vrai ou pas tant que ça finalement?
Si, carrément. Beaucoup, ouais. Après il y en a vraiment beaucoup,
c'est très divers aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'on s'influence autant, tu vois, de Nirvana, tu vois, Queen of the Stone Age, des choses qui sont un peu basiques pour nous maintenant. Après, plus récemment, il y a les groupes
comme en Angleterre Goddam ou l'Australien Dizzy Death Rays, les Anglais aussi, les Slaves.
Il y a un côté vous avez un côté fusion également ou...
Pas vraiment, ça reste quand même assez direct et dans le même esprit. Après, voilà, plus récemment, on écoute beaucoup de pop. Du coup, il y a des groupes comme qui viennent de sortir, comme Lewis Delmar, ou des choses un peu vraiment modernes et pop qui sont rien à voir avec le grunge, mais qu'on on aime mettre un peu dans, dans ce genre de musique, quoi. C'est-à-dire le côté singulier, tu vois. Parce que tu vois, t'as les pop songs de Nirvana, tu vois, qui sont genre brutes, qui durent 2 minutes 50 et, et couplet, refrain, pont, refrain, c'est fini, tu vois. Mais du coup, il y a, des choses modernes qui viennent du coup dans des projets qu'on écoute, qui font que du coup, on essaie de les retranscrire un peu à notre façon, mais c'est pas forcément visible. Audible pour le coup,
ouais,
mais, mais elles sont là et,
c'est ce qui fait
et on les transmet musique, aussi, quoi.
Ouais, ok. Et puis alors voilà, là vous êtes en tournée, c'est la première fois que vous quittez la France ou c'est pas une première?
Voilà,
je crois que c'était la deuxième fois. Enfin, on a fait quelques petits concerts dans les pays à côté.
Okay.
On a fait l'Italie, Belgique et du coup là c'est
et,
la Suisse.
L'Espagne, il y a longtemps.
Mais... L'Espagne, ouais, on a fait l'Espagne il y a un an et demi, ouais, 2 ans et demi.
Et puis alors là, dites-nous, là vous êtes à Genève aujourd'hui, ensuite.
Bah c'est la, fin,
là, c'est
en
la
fait.
Fin en fait.
Ah, vous, c'est la dernière date. Okay. En fait, ensuite, donc, vous retournez tranquillement à Aix.
C'est ça, on va dormir pendant 3 jours et après, on
ça va. Et alors, comment s'est passée cette tournée et où êtes-vous allé rapidement hein, juste pour,
bon, on a fait vraiment, pour le coup, on a beaucoup fait la France. Donc, ça fait. On a fait une fois 3 semaines, du coup, d'affilée, avec quelques jours off, bien sûr, mais on a quand même bien tourné. Et on a fait une fois 10 jours début mars. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a dû faire quand même. Là, 2 à 3 fois la France, on va dire, sur ce mois et demi, quoi.
On a fait beaucoup de villes en France, quoi.
On a fait tour, quoi. Là, si on compte les kilomètres, ça ferait, on est quasiment à 8 000-9 000, je pense, tu vois, sur un mois et demi, quoi.
Sur un mois et demi, ouais. Ça veut dire que vous avez dû, enfin, il faut avoir le temps de le faire aussi. Enfin, il a fallu financer tout ça et tout, ça va. Vous avez réussi à trouver.
Ouais. Bah, ce qui se passe, c'est qu'on est, on est saisonnier, en fait. Donc, si tu veux, on travaille l'été en restauration. Ouais. Et ce qui nous permet du coup ensuite de vivre, on va dire, aisément en France et de pouvoir faire de la musique tout le temps, quoi.
Et alors, quelles sont vos aspirations? Il y a un album qui va venir, qui est déjà là, ou quoi aspirez-vous?
Là, il y a un EP pour l'instant.
Ouais. Qui est sorti début mars, du coup.
Ok.
Ouais, qui vient, en gros, c'est ce qu'on est en train de
faire. Vous avez fait la tournée de l'EP, ouais, tout à fait. Je vais vous appeler, je vais vous demander après si Internet est tout bien entendu.
Et du coup, ouais, on veut essayer d'enregistrer rapidement encore 2 morceaux.
Ok.
Qu'on sortira juste, je pense, en ligne. On s'était mis d'accord là-dessus, je pense. Juste parce que, voilà, comme on travaille pendant 4-5 mois l'été, il faut quand même avoir du contenu qui sort pour pas disparaître. Faire une grosse tournée et puis ne plus être là, ça serait un peu.
Parce que, maintenant, il y a peut-être le coup des réseaux sociaux qui sont vachement importants par rapport à la promo d'un groupe. Et il faut rester assez attractif à ce niveau-là pour que tu te relances, que les gens sachent que tu es toujours vivant, finalement. Quoi. Ouais.
Et alors, le bilan de cette tournée, il est plutôt positif. Vous avez rencontré du monde, est venu au concert, vous avez fait des bons contacts, tissé des bons trucs.
Oui, il y a des concerts plus cool que d'autres.
Ouais.
Mais en général, c'était toujours une bonne ambiance. Et c'est vraiment. Même les concerts, il n'y avait pas grand monde, on s'est quand même éclaté.
Puis c'est toujours. Tu vois, des fois, on travaille par exemple à Metz, on travaille avec une asso qui s'appelle Boom Chaka, tu vois. Et cette asso, du coup, c'était un peu le test. C'est-à-dire qu'on arrive, c'est notre première tournée, on n'a encore aucun nom, en fait, au niveau de la France, tu vois. Du coup, on a quand même beaucoup de tournées chez nous. On a un petit nom sur Paris. Au niveau de la France entière, on est quand même assez jeune et les gens ne nous remettent pas, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, il y a ce côté-là aussi. Donc, des fois, on joue pour des orgas qui se disent pas forcément ça va être une super soirée parce qu'ils ne savent pas ce qu'on fait, ils ne savent pas la gueule qu'on a en concert.
Okay.
Et finalement, là, on a un peu vendu le Doctape pour les prochaines tournées, à savoir certainement avoir des meilleurs plateaux, première partie, tout ça. Donc voilà, c'est le côté que voilà, c'était une première. Donc voilà, c'était le côté. On se présente au public, voilà. Quoi.
Ouais. Alors, tu t'as anticipé ma prochaine question, c'était de savoir si effectivement, quand on fait une tournée, est-ce que déjà, d'une certaine manière, en filigrane, on prépare la suivante. Mais c'est ça, en fait.
Là-dedans, en fait, c'est pas.
C'est déjà les contacts. Et puis
c'est quand
déjà des repérages.
C'est
en fait.
quand une orga vient vers toi et te propose une soirée, donc tu fais la soirée avec lui. Généralement, après, il y a un after où tu discutes avec la personne. Et généralement, avec la trois quarts, même je dirais, un gros 95% des orgas avec qui on a bossé sur ce mois et demi de tournée. On a tourné qu'avec des gens qui étaient agréables avec nous et avec qui on était complètement d'accord sur la musique, sur l'humanité, tu vois. Genre, on était très, très bien ensemble, tu vois. Donc, voilà, on a fait des contacts, mais c'est aussi devenu des copains un peu. Donc, ça fait du réseau, et puis ça, pour la suite, c'est forcément une bonne chose.
En un mois et demi, quelle a été votre pire galère et votre moment subliminal de jouissance? Est-ce qu'il y a eu une grosse galère et puis mais de galère, laquelle vous pouvez d'ores et déjà vous marrer parce que bon, vous êtes au bout. Est-ce que vous avez, je sais pas, une panne sèche à un moment donné, vous faites vraiment pas, ou des rencontres ou.
Je sais pas forcément. Bon, on a eu une galère à Paris, quoi.
Voilà, mais on a eu de la chance sur cette tournée, mais bon, après on a eu quoi,
cool.
Des coups de la voiture à la fourrière.
Ou genre l'orgueil te dit laisse la caisse là, tout est cool, tu vois, quand tu vas te coucher et que le matin tu te réveilles et tu vas chercher la caisse et la caisse elle est pas là quoi.
Et quand tu vas la chercher, les plaques ne sont pas à jour, donc on peut même pas la récupérer et donc on doit zoner dans Paris
pour aller changer les plaques.
Ça c'était un peu une galère, mais c'était cool, c'était une bonne galère.
Parce qu'on avait, comme on avait fait une bonne date la veille, du coup on était quand même bien. C'était le Glazart à Paris, donc c'était une belle soirée avec plein de groupes. Mais donc ouais, quand t'arrives et que tu sais, que tu vois à 200 mètres que ta caisse elle est pas devant la salle de concert et que tu sais que tu fais galérer pendant 4 heures après pour choper les trucs, c'est moyen quoi. Ouais, après voilà, après galère, niveau bonne galère, on n'a pas eu forcément des galères de ouf, mais par exemple hier soir on était au Printemps de Bourges pour les off, pour l'orgue des sous-off, et il faisait, je pense que quand on a joué, il devait faire 2-3 degrés.
Ah oui, bah évidemment. Ouais.
Et c'était en plein air, donc ça c'était quand même bien rock'n'roll et du coup... En fait, par rapport à l'histoire de vacances et tout, il n'y avait pas forcément de ouf de monde en ville hier soir. Donc, on a joué devant une vingtaine de personnes sur une scène pas non plus dégueulasse, quoi. Donc, voilà, c'est le genre de soirée où tu te dis, bon, on fait quand même le job, mais mince alors.
Et puis, les meilleurs bons plans
Moi, j'ai bien aimé Paris, en fait. Parce qu'on a fait, Paris, en fait, on a joué au club. Et je pense que c'était le gros pogo qu'on a vu devant face de nous. En fait,
Il y avait une super énergie en fait. Du coup, on était à 2000. Et moi, j'ai même eu un moment où je pense j'étais au bord du malaise au milieu du set parce que j'avais trop donné quoi. Et je me souviens, j'ai demandé un verre d'eau à mon collègue et je me suis versé sur la gueule la moitié et j'ai bu le reste. Tellement j'étais genre, je voyais le plan et tout quoi. Mais c'était vraiment génial parce que du coup, cette salle elle est au moins 2 en fait. En fait, donc elle est au niveau du métro en fait. Et du coup, pendant les balances, quand les blancs étaient là, en fait, on entendait le métro passer.
Sérieux, ça vibre.
Et c'était assez rigolo. Et puis les mecs, c'était que des gros trashers, du coup, skateboard, tout ça. Et un peu crust sur les bords, mais c'était, c'était vachement rigolo. Okay. Une bonne soirée. Quoi.
On arrive doucement au terme de l'entretien. On va terminer, évidemment, parce que c'est les derniers mots de l'entretien. Ce sera le site internet et l'adresse de contact, hein, parce que c'est ça que les gens après vont retenir. Plus, le reste aussi, on espère, bien entendu. Mais j'aurais une question à vous poser de la manière équivalente à vous deux, une question en trois volets. Est-ce que, voilà, rêvez-vous d'un endroit où jouer, une scène, quelle serait la scène de vos rêves dans le pays de vos rêves? Ce serait, je ne sais pas, voilà, vous allez me répondre. Le deuxième volet, ce serait, quel serait le groupe avec lequel vous aimeriez faire une première partie? Et puis après, la troisième question, toutes ces questions sont optionnelles, si ça vous fait chier d'y répondre, vous y répondez pas. La troisième, c'est, est-ce qu'il y a un cover qui vous intéresserait de faire? Je sais pas, Asdes, Deep Purple, un truc marrant, ou même un truc typiquement de musique classique ou de musique flamenco, je sais pas, un truc un peu un ovni. Alors, qui commence?
On peut tous les deux répondre.
Alors, mais oui, on y va. La scène de vos rêves.
Moi, j'aimerais bien
le pays de vos rêves.
Moi, je suis anglais et j'ai jamais vraiment eu la chance de pouvoir aller mater des concerts et tout ça en Angleterre, mais j'ai plein de potes qui ont assisté à plein de gros festoches et des trucs comme ça. J'ai regardé tellement de vidéos de festivals et tout. Et moi, ce serait Reading and Leeds.
Ah ouais.
Pour jouer à Reading and Leeds, ce serait la folie pour moi.
Moi, le plus gros festival.
Ça serait juste énorme. Et après, en France, il y avait pas mal de trucs.
À Paris, c'est des salles comme la Maroquinerie, le Bataclan, qui sont des salles quand même légendaires et qui nous parlent beaucoup par rapport à leur programmation. Quoi. Ouais. Et ça, c'est des salles qu'on aimerait beaucoup.
Il y a d'autres villes. Alors, Paris, j'imagine, ça va être un rêve, évidemment, parce que Paris, voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres villes comme ça qui auraient des caractéristiques qui vraiment joueraient, tu vois, typiques Enfin, pour nous, on a des images de la France, qui est évidemment comme vous, de la Suisse, donc évidemment avec certains
préjugés, oui.
Typiquement, pour nous, Bordeaux, c'est une ville qui devrait ressembler à Genève parce qu'on l'imagine assez calme. Et du coup, ça donne envie d'aller voir si c'est vraiment calme ou d'aller un petit peu secouer les trucs. Lyon, pour nous, c'est plus une ville où il y a les Canus, donc il y a Radio Canus, il y a des Libertaires, il y a des Anars, donc un truc un peu plus militant.
Ah ouais.
Je sais pas, est-ce que pour vous, il y a un truc comme ça qui serait aussi en France et ailleurs?
Pour le coup, on a fait les deux villes, là, pendant un mois et demi, on est passé à Lyon et à Bordeaux. Je dirais que, je pense que Lyon, c'était une salle un peu excentrée à Lyon, donc c'était un mardi soir en plus, donc c'était un peu chaud, il y avait beaucoup de monde, on a fait une quarantaine d'entrées, c'était pas mal, et les gens étaient motivés, donc c'était cool. Mais... je pense que Lyon, dans un bon bar où il y a du monde, ça peut être génial. Autant que Bordeaux, on a fait une cave en ville, quoi, à côté des Halles, qui était vachement cool. Mais pareil, c'était un début de semaine, du coup, il n'y avait pas du ouf de monde. Et il y a un groupe qui a dû annuler parce qu'il y avait des problèmes de merde. Donc, en France, moi, je pense que les villes qui m'attirent le plus, ce serait Metz, Strasbourg, où c'est des villes où la musique qu'on fait est quand même assez reconnue au niveau du public, c'est-à-dire que les gens se bougent au concert et aiment cette musique-là et revendiquent le fait de se prendre du son dans la gueule et d'avoir des problèmes d'oreille à la fin du concert. Donc, okay. Donc je pense que c'est plus des villes où on a notre place.
Ouais. Ça marche, tu confirmes.
Oui.
La deuxième partie, deuxième volet de la question, ce serait, est-ce qu'il y a un groupe duquel vous aimeriez faire la première partie ou pas?
Ah ouais, il y en a plein.
Dame, ouais,
il y en a plein, mais après, s'il faut choisir. Après, pour Duct Tape, ce serait très cool de faire la première partie de Goddam, je trouve.
Goddam, qui du coup. Ouais,
un autre duo, qu'on suit depuis longtemps.
Pas forcément reconnu de ouf, mais qui nous a beaucoup marqué, quoi.
Ok.
Et après, il y a les Australiens de Dizzy Defrace aussi, qu'on aime beaucoup aussi.
Ouais.
D'accord, donc ça c'est vraiment les deux.
Ouais, ça c'est des groupes avec ça collerait bien, je pense.
C'est cohérent et puis c'est des mecs qu'on suit pas vraiment. Du coup, c'est ce côté un peu respectable qu'on peut avoir par rapport à leur musique, quoi.
Et puis, dernier volet, un cover qui est marrant, un challenge comme ça, vous aurez fait une reprise bizarre.
Je sais pas. Hein.
Mais ça peut être vraiment de Brassens à Tchostakovitch.
Nous, on avait commencé à faire une cover des Doors. De Love Me Two Times. Un peu en mode post-toner, quoi, enfin, plutôt que Queen of the Age version, quoi. Et c'était vachement cool. On l'a pas pu se travailler avec ça, on avait fait une radio, je crois.
C'était il y a longtemps aussi,
pourtant. C'était il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et du coup,
pas le même son qu'aujourd'hui. Voilà. Après, ça peut être cool.
Si je pense que c'est un truc qu'on pourrait aboutir d'ici peu. Après, bon, moi, je serais bien chaud, tu vois, de reprendre un truc comme Back in the USS.
Ouais,
LSS des Beatles, tu vois.
White Album, là, ouais.
Ah ouais, c'est la première track du White Album, et c'est un truc, ça me fait un peu délirer, quoi. C'est
tout celui-là, je veux dire, des bonnes reprises bien vénères, ça pourrait être
Ça pourrait être vachement cool, ouais.
Ok. Question triviale qui clôture d'une certaine manière notre entretien. Site internet, les contacts, parce que certainement vous aimeriez être reconnu ailleurs et que vous seriez ravi qu'on vous propose ça, des concerts.
Alors, bien sûr, on est sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram. Du coup, on a un Bandcamp également et un SoundCloud, donc tout ce qui va avec. Donc généralement, le truc le plus simple, c'est quand même Facebook et Instagram. Donc, dire Facebook, par exemple, ça va être Duct Tape en un seul mot. Donc, D-U-C-K-T-A-P-O en un seul mot. Ça se trouve assez facilement. On a une petite fanbase maintenant. Et après, sur Instagram, c'est Duct Tape de Band. Donc voilà, après, les liens se font, c'est assez simple après de retrouver tout ça, quoi. Il y a un site qui va être fait d'ici peu, mais il n'est pas encore réalisé. Donc, okay.
Puis le contact via la page Facebook également, voilà. C'est plus facile.
Après, là, on est sur YouTube également, il y a pas mal de live, pas mal de clips. Il y a un clip qui est sur YouTube également.
Donc, je pense qu'on peut retrouver la plupart des choses via le Facebook.
Hein, ouais, bien sûr.
Okay.
C'est simple, c'est d'aller sur le Facebook, si les gens ils veulent suivre ou voir autre chose, le Facebook,
c'est plus facile,
ils peuvent tout retrouver.
Okay. Est-ce qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas pensé et à laquelle vous auriez souhaité répondre, qui vous vient à l'esprit ou
pas?
S'il n'y a pas, c'est que j'ai bien fait mon job, je suis certain, mais il se peut que...
Moi, j'ai l'impression que tu as bien fait ton job. Hein,
bon, c'est gentil, en tout cas. Bon, je vais vous la poser, puis on la coupera si ça ne vous plaît pas, mais votation piège à con ou votation on fait quelque chose en France? Parce que c'est la présidentielle, nous, depuis la Suisse, je ne vais pas vous mentir, on observe ça avec un air... des fois un peu désabusé, des fois un peu scandalisé, des fois un peu amusé. On ne sait pas trop quoi se dire parce qu'on entend, on a des infos qui viennent comme elles viennent.
Bien sûr.
Voilà. Ouais. Vous alors?
Pour l'instant, je pense que notre réaction, elle a été plutôt comme la tienne, c'est-à-dire amusé des fois désabusé et des fois un peu pas choqué, mais merde, ça arrive. Moi, je prends l'exemple de François Fillon, bien sûr. On va dire qu'en ce moment, c'est un peu la détresse. Parce que, par exemple, hier, il y a eu un attentat à Paris.
Ouais.
Donc, il y a toujours la peur que l'extrême droite passe. Et donc, voilà. Nous, on le dit clairement, on va voter Mélenchon. Parce qu'on pense que c'est la meilleure initiative et qu'avec ce qu'il y a en face, c'est pas possible pour nous. Après, on verra le second tour, on verra dimanche soir comment ça va se passer. Pour l'instant, je pense que moi, personnellement, j'ai un peu peur de ce qui va se passer. Parce que j'ai eu l'espérance, tu vois, que la France Insoumise prenne... je l'ai toujours, hein. Mais il y a toujours ce côté-là, avec des événements comme hier soir. Il y a plein de gens qui changent d'avis très facilement. Et la France, c'est tellement divers que... Il y a des gens qui peuvent être très simples et se dire « Ouais, il y a eu ça, machin va pouvoir changer. »
Avec les... problèmes de corruption qui ont émergé, autant du côté de Marine Le Pen que de Fillon, hein, d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que l'abstention sera tout d'un coup à des très hauts niveaux ou juste ou pas.
Moi, je pense que ça va être l'inverse. En fait.
Voilà, exactement. Les gens se disent, il faut qu'on dégage ces gens.
Moi, j'ai plein de copains qui vont pas voter, ouais. J'essaie de leur montrer qu'ils ont tort. Ben, moi, je pense qu'ils ont tort. Après, pas forcément d'accord avec tout le monde, hein. Je pense que cette année, ça va être différent et qu'il y aura moins d'abstention que d'habitude par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. Je pense du coup aux affaires de Fillon, aux affaires de Le Pen, tout ça qui font que du coup les gens se disent aussi mince alors. Et au lieu d'aller voter blanc ou de pas voter, ils vont sûrement aller voter pour Mélenchon ou même Asselineau, tu vois, ou même comment il s'appelle Lassalle, tu vois, pour ouais, juste ah, faire, oui, juste montrer que y croire des trucs, quoi.
Mais vous, l'état d'esprit que vous avez capté autour de vous, parmi justement vos potes et vos milieux, il en est où? Parce que c'est vrai que des fois, on se dit, bon, on ne va pas se mentir, en Suisse, c'est une horreur également, je veux dire, il ne faut pas rêver, bien entendu, sauf que c'est beaucoup plus dissimulé, et puis il y a une chape de plomb de discrétion qui est culturelle, hein, également. Mais c'est vrai que j'imagine qu'on doit se dire, allez, je lâche prise, je m'en vais, parce que, voilà, il y a des... On peut comprendre l'écœurement, je veux dire. Et vous ressentez quoi en ce moment autour de vous? Avec tout ce qui se passe, c'est vrai qu'on se dit comment est-ce qu'on arrive à se déterminer avec tout ça?
Moi, j'ai ma copine qui était à Marseille pour le meeting de Mélenchon il y a 2 semaines. Et quand un mec comme Mélenchon, il arrive à faire 70 000 personnes sur le Vieux-Port, moi, j'ai une chose à dire, c'est l'espérance. Moi, j'ai foi en l'espérance.
Dan et Jules, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon concert et un bon retour ensuite à Aix.
Merci bien.
www.libradio.org 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 www.libradio.org